Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille. C'est le 13-30 en quasi-direct, cette fois-ci sur le 88.8. Une rencontre effectuée ce matin, proposée pour vous pour ce 13-30, une rencontre avec le réalisateur Nicolas Wadimoff. Il signe un documentaire remarquable, Spartiate, ou l'aventure quotidienne d'Yvan Sorel, champion et entraîneur de MMA ou de Free Fight dans les quartiers nord ici à Marseille. Un regard différent, plein d'humour, est tiré dans ce long format, sobre et terriblement efficace. Et Yvan Sorel, un sacré personnage, un grand frère, un activiste qui n'a pas pu se joindre à nous pour cause d'entraînement, mais dont vous pourrez comprendre et soutenir son combat ce soir, vendredi 13 novembre à la bibliothèque L'Alcazar. Nicolas Wadimoff et son Spartiate, primé d'ailleurs dans plusieurs fois et bientôt diffusé sur les canaux nationaux, et ben ils sont sur Radio Grenouille.
Vous avez tous la possibilité d'aller au-delà de vos limites. Et je le vois. Et c'est pour ça que je vous kiffe à mort et que je suis fier de vous et d'avoir des élèves et que je ne vous lâcherai jamais. Ok ?
Ok.
Donc jouez le jeu, s'il vous plaît. Soyez là tous les jours. Moi, je suis là tous les jours. Hein. Ok ?
Ok.
Vous aimeriez pas avoir cette putain de salle qu'on attend ?
Ouais.
D'avoir notre putain de cage ?
Ouais.
D'avoir notre putain de ring ?
Ouais.
D'avoir 10 sacs de frappe à notre disponibilité ?
Ouais.
D'avoir notre salle à nous de 8h du matin à n'importe quelle heure, à l'autre 8h du matin ? Vous aimeriez pas ?
Ouais.
Que là, il faut attendre une certaine heure avec des tatamis qui sont pourris, avec notre matériel qui est endommagé parce qu'il est complètement enfoui dans ce placard. D'avoir une enseigne marquée Team Sorel, c'est pas notre but, ça ?
Ouais.
Bonjour Nicolas Wadimoff.
Bonjour.
Re-bienvenue à Marseille. Vous êtes un grand fan de l'OM, il paraît. De quoi parle Spartiate ? Est-ce qu'il parle des quartiers nord ? Est-ce qu'il parle d'Yvan Sorel ? Est-ce qu'il parle de Marseille ?
Je pense qu'il parle un peu de tout ça à la fois. Mais il parle surtout de l'engagement d'un homme, en l'occurrence le sien, qui essaye de fédérer autour de son club de sport, qui s'appelle le Team Sorel. Qui essaye de fédérer des jeunes et surtout d'apporter, je pense, on va dire ça de manière un peu œcuménique, mais une lumière quand même dans un territoire souvent un peu obscur. En gros, il essaie de donner des perspectives à des jeunes qui en ont plus beaucoup. Et puis j'ai surtout l'impression qu'il joue un rôle énorme, peut-être plus grand que lui, plus grand que ce qu'il peut supporter, un rôle de remplacement là où d'autres devraient être, en l'occurrence les institutions, l'État, la
puissance publique,
voilà, etc. quoi. Et je crois que ça paraît assez évident et peut-être banal de le dire, mais il y a vraiment un grand trou qu'il essaie de combler. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné.
Du coup, Spartiate est diffusé ce soir à Bibliothèque Alcazar. C'est bien ça, Valérie qui est avec nous. Qu'est-ce que vous attendez comme réaction du public marseillais, justement ?
Eh bien, je ne sais pas. J'attends qu'on puisse en débattre. Je sais que je suis assez rassuré sur une chose, c'est qu'on a montré le film, je dirais, à la famille élargie, comme une soixantaine de personnes. On a fait une projection privée dans le Sorel Lounge, comme il s'appelle. Tout s'appelle Sorel. Parce que j'avais vraiment envie que les gens avec qui on a tourné, qui faisaient partie de l'aventure, puissent le voir en primeur. Puis là, je redoutais un peu, j'étais un petit peu anxieux, savoir que s'ils pensaient qu'on les avait bien racontés, bien montrés, bien filmés.
C'est tout l'enjeu du documentariste aussi.
Ben oui, c'est ça. Si ça se passe mal avec eux, je pense que c'est raté. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Ils se sont non seulement retrouvés, reconnus, ils ont apprécié le film, on en a beaucoup parlé ensuite. Donc j'imagine que ce soir, ça va être un peu pareil. Il y aura la famille encore plus élargie, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui sont proches, soit du team, soit des alentours, soit peut-être du milieu des sports de combat aussi, on va voir. Et puis j'espère surtout qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui pourront le découvrir.
Comment vous êtes rencontrés avec Yvan Sorel ? Alors, j'ai entendu une histoire d'un shooting kino, c'est un petit court-métrage qu'on réalise en 3 jours.
C'est ça, oui, ça s'est passé comme ça. C'est qu'à l'occasion de Marseille, capitale européenne 2013, de la capitale de la culture, la télévision suisse et la radio suisse, qu'on appelle la RSR, ont délocalisé une partie de leur rédaction à Marseille pour couvrir l'événement. Voilà. Et puis une chaîne de radio qui s'appelle Couleur 3, qui est la chaîne un peu, vous connaissez peut-être, oui, qui est un peu décalée, voilà, a décidé de prendre un peu le contre-pied et s'est dit, voilà, au moment où la plupart de leurs confrères allaient faire des sujets sur la revitalisation du panier, sur le MUCEM, sur voilà, toute une série de projets qui donnaient une nouvelle image de Marseille, ils se sont dit, bah, c'est marrant parce que personne ne s'occupe quand même d'une grande partie de la population, hein, sans doute la moitié de Marseille et puis aussi la moitié en termes de géographie, de superficie. Donc qui sont en l'occurrence ce qu'on appelle les quartiers nord. Et comme il savait, un journaliste, que j'y avais déjà tourné, que j'avais des attaches assez fortes depuis un certain nombre d'années, notamment à travers des amis comédiens, tout ça, il m'a demandé si j'avais envie de faire une carte, il m'a donné carte blanche, il m'a dit, voilà, t'as ce principe du film Kino, c'est 2 jours, tourner, préparer, tourner, monter, voilà. Donc j'ai relevé le défi, j'ai appelé mon ami Moussa Maskri, qui est comédien de Marseille, qui m'a dit, écoute, moi je suis pas là en ce moment, parce que j'imaginais faire quelque chose peut-être avec lui, il m'a dit, mais va voir ce Yvan Sorel, qui est quelqu'un d'assez surprenant. Donc j'ai été le voir, j'ai fait ce petit film qu'on a mis en ligne ensuite, c'était pour le web, tout simple, en 2 jours, qui montre un peu le boulot d'Yvan avec les jeunes. Puis ça a remporté une espèce un écho assez incroyable, où les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Voilà, par rapport à la petitesse, je dirais, de l'entreprise au départ, qui était un film tout court, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Et donc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'en faire un film. Et moi aussi, cette idée m'a accompagné pendant tout l'été qui a suivi, alors que j'avais d'autres projets. Et puis, comme ça arrive parfois, comme un film il y a une évidence de film qui est apparue, au détriment d'ailleurs d'autres projets qui étaient en cours. Et puis, je suis revenu tourner là, finalement, il y a 2 ans maintenant, l'automne, il y a 2 ans.
L'école, ça marche, ça marche pas? Ça marche, ça marche pas?
Ça marche pas.
À autre moment.
Ça marche pas.
Ah, tu vas renvoyer? Hein? Je dis, j'ai tous les professeurs, les proviseurs, les profs, tout le monde. Tout le monde. C'est pas la peine que ta mère ou ton père me le disent. Tout le monde, je sais.
C'est quoi la connerie? J'ai cassé une lame.
T'as cassé une lame? Pourquoi? T'as pas de lame chez toi? Accéléré! Pas de lame chez toi? Et moi, j'ai plein de lampes ici. Pourquoi tu ne les casses pas? Pourquoi? Tu sais pas? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es un lâche. Et c'est quoi les lâches? C'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir une école, d'avoir des professeurs qui t'apprennent toutes les matières possibles. Tu vas dans des pays du tiers-monde, il n'y a personne qui peut avoir une école. Et toi, tu peux. Et tu t'en bats les couilles. C'est ça, tu t'en bats les couilles. Tu veux faire cracher ta mère, ton père ou ta famille, tu veux que j'aille dire quoi? Mon neveu, mon fils, mon petit-fils, c'est un clochard. Il se fait renvoyer du collège. C'est une merde, c'est une loque. C'est ça que tu veux? Eh ben, tu es bien parti, tu commences à te faire renvoyer du collège. Quelle classe tu es? 4e?
5e.
5e? Putain, ça commence bien tôt, toi.
Ouais, c'était pas non plus votre premier sujet, ça fait longtemps que vous bourlinguez et vous l'avez senti sans doute ce sujet documentaire qui se présentait à vous, qui voulait bien aussi se laisser filmer pour faire parler de son histoire, de son combat, comme vous l'avez souligné au début. Il y a quelque chose de très important, c'est aussi la première scène du documentaire quand vous suivez Yvan Sorel de dos. Dans une cité des quartiers nord. Et il y a le rapport à la caméra qui est questionné par un des jeunes qui traîne comme ça. Mmh. Et direct, c'est une première scène qui est à la fois terrible et aussi très drôle à la fois, où Yvan Sorel lui court après en l'insultant, en lui disant « Oh, tu ne parles pas comme ça ». Comment ce rapport à la caméra a été abordé tout au long de ce documentaire? Parce que vous allez dans des scènes quand même qui sont très fortes, que ce soit les séances d'entraînement ou des fois, comme on peut l'entendre dans les extraits qui sont en train d'être diffusés durant cette interview, on peut entendre des coups, mais des coups très mesurés, on l'apprend tout au long du documentaire, des coups très mesurés envers ses élèves. Comment ce rapport à la caméra, il a été brut? Parce que le documentaire est sans voix off, on suit vraiment Yvan Sorel, il y a quasiment que lui qui s'exprime, quasiment. Comment le rapport à la caméra, comment vous avez réussi à vous effacer par rapport à tout ça?
Mais c'est intéressant que vous évoquiez cette première scène, parce que pour moi, on l'a vraiment mis au début du film, je dirais pour deux raisons. D'abord, une assez évidente, c'est qu'il y a un contexte dans lequel le film se déroule. Je pensais que c'était assez nécessaire de le préciser, de le raconter. Ce n'est pas un endroit facile, c'est un territoire qui n'est pas forcément facile. Donc je pense que cette scène-là le dit bien. Et puis ensuite aussi l'idée qu'on voit d'ailleurs, non seulement on parle de la caméra parce que le type qui est pas content parce qu'il y a une caméra s'adresse et dit « qu'est-ce que tu filmes là ?» En plus on voit même le reflet, l'ombre du chef opérateur de manière assez marquée. L'idée c'était d'assumer, de dire dès le départ, c'est un documentaire, on filme, on est là, et la présence de cette caméra, elle va très certainement modifier le cours des choses. Parce que moi, je ne crois absolument pas à l'idée, je pense que c'est une grande imposture lorsque les documentaristes disent qu'après des mois et des mois d'immersion, on se fait complètement oublier, on filmait, les gens ne savaient plus qu'on était là. Non, je pense qu'on est toujours conscient lorsqu'il y a une caméra. Par contre, effectivement, si on s'entend plus ou moins bien et qu'on se fond plus ou moins dans le paysage, la caméra peut trouver, je dirais, être peut-être un peu moins présente dans l'esprit des gens. Mais je crois que de toute façon, il y a toujours cette petite idée qu'elle est là. Voilà. Alors, je pense qu'au lieu d'essayer d'éviter ça et de faire comme si ça n'existait pas, on peut même en jouer. En l'occurrence, à Marseille, quelque chose d'assez particulier, c'est quand même une ville qui se met en scène en permanence. La question de la représentation est très importante. Il y a une espèce de théâtralité permanente de la vie, hein, des gens entre eux. Je crois que c'est un endroit ici, c'est le sud, c'est Marseille, où on n'entre pas dans un café comme on entre dans un café ailleurs. On entre dans un café de manière théâtrale, on parle fort, etc. Et c'est une question qu'on me pose très souvent lorsque le film a été montré à l'étranger. Mais est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Puis je dis, mais ouais, c'est, même si on ne filme pas, un gars qui rentre dans un café, il dit, oh, il faut que tout le monde le voit. Voilà. Alors, entre ça, cette spécificité, je dirais, un peu marseillaise, qui est, je pense, en plus augmentée par l'effet, on va dire, bande de jeunes qui regardent des films où c'est comme ça. En plus, on ne sait jamais très bien si c'est les films d'après de gangsters qui imitent la réalité ou si c'est la réalité qui finit par imiter les films de gangsters. Tout ça ensemble fait qu'on est dans une espèce d'hyper-représentation des choses dont qu'on n'a pas, je pense, augmenté, mais qu'on a filmé, qu'on a capté. Et puis, on a effectivement des séquences où on se dit, mais c'est incroyable, il joue, il est là pour la caméra, comment? Puis en fait, non, vraiment pas. Hier, je suis arrivé par hasard dans un entraînement j'ai été chercher Yvan. Il ne sait pas que je suis là et j'ai pas de caméra et je regarde par un petit pied de la fenêtre, et c'est pareil, ils sont dans une espèce de théâtralité absolument incroyable, donc c'est du pain béni pour aller le filmer, quoi. Et puis une autre chose, c'est que Yvan a quelque chose d'assez particulier, et quelques autres du club aussi, c'est qu'il a ce qu'on appelle en anglais camera conscious, quoi. Il y a des gens qui sont conscients de la caméra sans le démontrer, et il y a des comédiens qui ont ça, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc lui n'est pas comédien, mais je peux vous assurer que s'il le devenait, il a ce rapport à la caméra un peu instinctif, qui fait qu'il sent très très bien sans jamais adresser un seul regard caméra, ce qui est très très rare, hein, jamais. Il sent très bien où elle est et il tourne un peu pour, comme si c'est très 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 surprenant, quoi.
C'est comme une danse avec la caméra.
C'est comme une danse avec la caméra. Et le chef opérateur était totalement scotché par ça, parce qu'il disait, c'est incroyable, j'entre, Yvan est hors champ et j'ai l'impression qu'il sent à quel moment on va arriver sur lui, à quel moment. Puis il y a cette séquence où il tape tout le monde. C'est un espèce de pas de deux entre lui et le caméraman, quoi. Les deux ont conscience de l'autre et on joue, quoi.
Oui, il y a des scènes très fortes. Est-ce que toutes ces scènes-là, on se pose la question, est-ce que toutes ces scènes-là sont scénarisées ou on est sur du spontané?
Absolument. C'est absolument spontané. Totalement. Mais je pense, encore une fois, c'est que c'est spontané, mais ils vont... se dit, ah, ils sont là, ou elle est dans mon dos.
Subjugué par la présence de la caméra.
Je vais peut-être rentrer ça maintenant. Ouais. Voilà. Encore une fois, comme je le disais, c'est très paradoxal parce que quand on n'est pas là, il le fait aussi. Hein, mais
c'est dommage qu'il ne soit pas là autour de cette table pour en parler. Il était en entraînement,
ouais,
hein, ce matin. Voilà.
C'est ça. Il entraîne des jeunes là, dans un collège. Mais, je crois qu'il a cette espèce de sixième sens. Et moi, j'en suis arrivé à une hypothèse. Je ne dirais pas que ce n'est pas une conclusion, mais une hypothèse. C'est que je pense que, à la fois, quand on vit dans l'environnement dans lequel il vit, on dégage peut-être plus qu'ailleurs un espèce de sixième sens, hein, des antennes, on ne sait pas par où ça peut arriver, les problèmes, voilà. Ça, c'est sûr. Ensuite, autre chose, c'est que c'est quand même un combattant. C'est la première activité, c'est ça. Hein. C'est son sport, c'est un sport de combat.
On l'a pas encore évoqué, je crois, mais on parle de free fight.
On parle de MMA, de free MMA. Fight, ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que il a une relation avec son corps et avec l'adversaire qui fait que, parce que c'est un sport où les coups peuvent arriver d'un peu partout. Hein. C'est le mixed martial art, ça vient au sol, ça vient en l'air, ça vient avec les pieds, avec les poings, avec les étranglements. Tout. Et j'ai l'impression que ça l'a sans doute aidé dans sa relation à la caméra. C'est-à-dire qu'il a vraiment, je sais pas qu'il s'est battu avec, mais c'est comme une espèce d'étreinte parfois. Et il se dit, ah, ça va être, c'est à gauche, c'est à droite, c'est en bas, c'est en haut. Donc, il en joue très bien. Et ça, c'est, quand on réalise un film, c'est du pain béni parce que c'est rare de tomber sur un personnage comme ça.
Comment voulez-vous encore une fois qu'on prouve qu'on est beaucoup à l'entraînement et que quand il y a une putain de réunion, on n'est pas beaucoup? Maintenant, il y en a un qui se fait poignarder, là, on ne descend pas tous sur le khali. Eh bien, faut faire pareil, là, c'est comme si on se faisait poignarder à chaque fois qu'il y a une réunion publique. C'est à chaque fois qu'il y a un truc où on doit se faire entendre, c'est comme si on était en mode poignard. Il y a un mec qui se fait poignarder, qu'est-ce qu'on fait? On va rester chez nous? On va faire la bringue? On va faire quelque chose? Faut y aller au front, les gars. Tous ensemble, on va compléter un truc. Tous ensemble, on va faire des choses bien. Tous ensemble. Tous. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore.
Est-ce que vous avez voulu aussi d'emblée montrer, parler autrement de Marseille? On a parlé de Quartier Nord, hein, cette série dont on s'est posé la question, dont on n'avait pas beaucoup entendu parler. On entend beaucoup, j'imagine qu'en Suisse, entre la Suisse et Montréal, j'ai mes camarades à Montréal qui me parlent beaucoup de Marseille en mal par rapport à ce qu'on entend. Bon, il y a l'OM, mais en ce moment, pareil, on entend du mal. Est-ce que vous avez voulu montrer ça, montrer autre chose de Marseille? Vous avez proposé votre manière de voir les choses, hein, comme je l'ai dit, ce n'est pas votre premier documentaire non plus, ce n'est pas votre premier terrain de chasse, comme on dit. Comment vous avez voulu montrer Marseille?
Ben, dès le départ, je me suis pas senti un cahier des
charges. Il me semble qu'on ne voit pas la Méditerranée.
Non, on la voit comme eux la voient.
Voilà.
Depuis un balcon,
c'est ça.
De très loin.
Voilà, de quoi ouais. Ouais.
Mais c'est sûr qu'on voit pas la Canebière, on voit pas le Vieux-Port, et on voit même pas les Calanques. C'était pas dès le départ une volonté affichée de dire voilà, je vais montrer l'envers du décor, ce sera gris, etc. Sauf que je tourne le film. Alors ça, c'est pour des raisons de circonstances, mais je trouvais que c'était intéressant. Je tourne le film dans une période qui est moins propice à la belle lumière éclatante de Marseille, qu'est l'automne, mais qu'est l'automne un peu tardif, c'est-à-dire même fin octobre, novembre, un peu comme maintenant. Bon, là, il y a une belle lumière. Ben non, pas terrible aujourd'hui, donc c'est un peu comme ça, les lumières du film.
Quand on sort de l'entraînement, il fait nuit.
Oui, quand on sort de l'entraînement, il fait nuit, la journée, il fait un peu gris. C'est aussi un Marseille qui existe. Ça a été souvent évoqué par les gens qui ont vu le film. Notamment, il y a eu un journaliste en Suisse qui s'est dit c'est un Marseille assez vilain, c'est pas celui auquel on est habitué, de plus belle la vie, il n'y a pas de folklore. Alors j'ai pas voulu faire vilain, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est parfois un peu en Pologne ou bien très très. Mais c'est aussi la réalité des quartiers et des barres d'immeubles, elle n'est pas très c'est pas plus belle la vie quoi, hein, c'est ça. Et j'espérais à un moment que les mômes du team aillent à la mer, aille faire une excursion, prennent le bus, et franchement
ça n'arrive pas, hein.
Ils y vont pas, quoi. Donc ils y vont pas, donc leur univers c'est la salle, le quartier, on traîne un peu. Donc voilà, j'ai filmé ce qu'il faisait et puis ça donne ça. Voilà. Maintenant, l'idée n'était pas de montrer de faire en contre-pied, je dirais, moins esthétique et moins folklorique, mais c'était plutôt, au-delà de ça, de montrer que dans cette réalité-là, qu'on dépeint de manière très négative, effectivement, la plupart du temps dans les médias, il y a des gens, en l'occurrence Yvan et ses proches, qui font des trucs, quoi, qui font des choses, qui relèvent la tête et puis qui ne se laissent pas, qui n'attendent pas, qui ne se laissent pas emporter dans cette espèce de défaitisme. Et par rapport à la génération précédente, enfin, en gros qui est la mienne, hein, ceux qui ont mon âge, qui sont, je pense, des gens qui ont beaucoup attendu et qui ont été déçus, hein, la génération de la marche pour l'égalité, qui s'est pris un peu en pleine gueule la fin de non-recevoir, quoi, de la République, on va dire, et qui en gardent une énorme amertume aujourd'hui. Eux, c'est leurs enfants, en fait, c'est les enfants de ceux-là, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'absolument, enfin de totalement différent, moi, qui m'a beaucoup troublé, c'est que eux, ils savent qu'ils ne font pas partie du projet, enfin, en tout cas, ils ne s'en sentent pas faire partie, et ils se développent ailleurs, à côté, et ça prend toutes sortes de formes, c'est-à-dire ils s'en développent économiquement autrement.
En marge ou en parallèle.
En marge ou en parallèle, avec tout est différent, le langage est différent, la manière de bouger est différente, la manière de voyager, la manière d'avoir des rêves est différente, etc. On fait pas partie du truc, donc nous on va se démerder. Et ce que fait Yvan est révélateur de ça, symptomatique de ça. On le fait sans subvention, on va le faire à notre manière à nous, bricoler. Ça marche quand même, c'est ça qui est étonnant.
Tout en étant connecté avec les réalités, on va dire, de entre guillemets du système. Quand il y a cette scène aussi, alors je sais pas si c'est la même salle que la salle d'entraînement où elle y ressemble beaucoup, où ils reçoivent Lisette Narducci pour discuter de cette l'éventualité d'avoir une salle en dur à eux enfin. Et il n'y a pas trop de promesses d'ailleurs.
Non,
elle reste plutôt prudente parce qu'elle est peut-être plus habituée à la caméra aussi.
Voilà.
Mais il y tient vraiment à ce rendez-vous, par exemple, avec la puissance publique et sans attente particulière, mais il veut montrer aussi le bon côté des choses.
Oui.
Il y a quelque chose de très sincère, en fait.
Il y a vraiment quelque chose de sincère, et je crois qu'on l'a rencontré hier soir. Valérie l'a vu hier soir. C'est quelqu'un qui est très cash, qui est très transparent. Je crois qu'il c'est pas du tout une volonté, je dirais, de s'affranchir de tout ça et de dire une volonté politique comme pourraient avoir, par exemple, les gens de la scène alternative, radicale, qui disent « moi, je développe mon endroit en marge ». Non, au contraire, lui, je crois que la seule chose dont il rêverait, ce serait d'avoir une reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il va, à la fin, à cette cérémonie, même recevoir sa 10e médaille d'honneur, donc une sorte de médaille en chocolat qu'il peut poser sur sa cheminée, les anines les unes après les autres. Moi, je pense qu'il y va parce qu'il attend toujours quelque chose. Il y va avec aucun cynisme, aucun sarcasme. Il espère qu'il va se passer quelque chose, puis il ne se passe jamais rien. Et puis encore hier soir, il nous en parlait, il attend encore. Et puis il sera toujours content de la recevoir. Et puis elle, c'est quelque chose que moi, je dois vous avouer, et même Valérie, pourtant, qui est d'ici, je ne comprends pas très bien, je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est même en dehors de mon champ du possible qu'après 10 ans de bons services, de bons et loyaux services, on va dire quand même, pour la communauté, il y a de plus en plus de mômes qui s'inscrivent au team. Il en a maintenant bientôt 100, qui s'occupent quand même de 100 gamins qui l'encadrent.
Et puis qui l'encadre et accompagne. Hein,
ouais, enfin, moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, je crois qu'il y croit encore.
Est-ce que vous avez l'espoir d'avoir, j'espère bien, moi, j'ai l'espoir de trouver des locaux.
Je me demandais si c'est par rapport à ce sport. Est-ce que c'est notre sport qui choque peut-être?
Alors,
le monde politique?
Non. Le problème numéro un du club, c'est effectivement le problème de locaux. Okay. Et depuis qu'Yvan a créé le club, c'est vrai que, puisque je le suis depuis quelques années maintenant, hein, je l'ai connu un petit peu plus jeune, ça a été d'essayer de l'accompagner dans ses activités, parce que je crois en lui, mais il n'a plus besoin de prouver qui que ce soit, quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque voilà, Yvan, voilà, il a un palmarès plus qu'honorable et pour lequel on est fier. Après, c'est vrai qu'un grand champion comme lui, on peut se dire c'est pas normal qu'il n'a pas les moyens. Voilà, de pouvoir travailler dans des locaux dignes de ce nom.
Non mais on est délaissé. Non mais, s'il vous plaît, je termine parce que je perds mon fil conducteur après parce que moi j'ai beaucoup de problèmes dans la tête. La moitié des personnes que tu vois là, ils sortent de prison. Ils sortent de travail parce qu'ils se sont fait virer parce qu'il n'y avait plus de licenciement économique, plus d'argent pour payer les salariés. Au RSA, au chômage, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Mon métier à moi, c'est de mettre des coups dans la tête à des adversaires 365 jours dans l'année, mais avec un respect. Tu es d'accord? Même c'est vrai. 9 ans qu'on est là, Lisette. Maintenant, le projet, maintenant, le truc, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces belles personnes?
Ce que je peux vous dire, c'est que je ferai tout pour obtenir le maximum d'aide pour l'association. La mairie de secteur, je précise, n'a pas de patrimoine. C'est ça notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas de patrimoine. Donc on va chercher et puis on essaie de négocier avec des opérateurs pour avoir une solution pérenne. Maintenant, depuis 18 ans, puisque ça fait 18 ans que je suis élue, j'ai toujours dit, n'attendez pas de moi un miracle, je n'en ferai pas. Et même si je vais, vous ne me donnerez pas votre voix parce que je ne vais pas vous faire de promesses, ce n'est pas grave, mais je ne vous ferai pas de promesses. Maintenant, vous dire que je fais tout et que je déploierai tous les moyens que je peux déployer moi pour essayer de vous aider, alors ça, je le ferai.
Depuis tout à l'heure, tu nous dis vraiment les choses qui sont sincères et réelles. Tu n'as pas le pouvoir. C'est vrai.
Je ne ferai pas de miracle.
Voilà.
Voilà.
Merci encore et...
Pourquoi Spartiate, pour terminer? C'est son comportement, du coup.
Spartiate, parce que c'est leur cri de ralliement. Mmh. C'est qu'eux se voient aussi alors comme des Spartiates, justement, les fameux 300 seuls envers et contre tous, mais qui ne se lâchent jamais, qui restent soudés, solidaires, quoi qu'il arrive.
Merci beaucoup Nicolas Vadimov d'avoir répondu à ces quelques questions un peu dans le désordre. On a pu entendre du coup quelques extraits de ce documentaire Spartiate donc qui est projeté ce soir vendredi 13 novembre à la bibliothèque Alcazar. Et on m'a parlé d'une diffusion prochaine également sur les gros canaux nationaux.
Alors le film est aussi coproduit par France Télévisions qui est arrivé sur le tard une fois que le film était...
Parce que le film, longtemps. En fait, ça a été, j'imagine que ça a été super rapide pour la mise en place.
Eh ben, ce que j'ai fait, c'est que c'est ce que je fais pas forcément d'habitude, mais j'ai trouvé que pour le coup, c'était assez salutaire. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, ah tiens, il y a un sujet qui est intéressant, on va écrire quelque chose, faire des dossiers, demander, vu comment ça se passe, je pense pas que j'aurais eu beaucoup de retours positifs, forcément. Donc je me suis dit, on le tourne et on y va. Et puis comme j'ai la chance d'avoir un peu j'ai quelques comptes de soutien comme ça, j'ai pris un petit peu des économies, puis bang, on l'a tourné et puis une fois qu'il était prémonté, qu'il y avait une histoire, semblant d'histoire, j'ai commencé à le montrer et là, les gens sont montés dans la barque après SF4 France Télévisions, tant mieux.
Tant mieux pour vous. Donc une diffusion prochaine sur...
Une diffusion, je crois, au premier trimestre 2016.
D'accord.
Voilà.
On relaiera tout ça. Merci beaucoup Nicolas
merci.
Vadimov d'avoir répondu à nos questions.
Lève-toi avec lui.
Voilà.
C'est bon ça. Maintenant tu restes dans ton optique. Hein. Tu restes dans ton optique.
C'est bon. Bien. C'est bien. C'est bien. Alors toi.
Vas-y.
Vas-y, Jamal. Vas-y. Retourne-toi, Jamal, retourne-toi. Ne les laisse pas construire au sol.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Faut que je sois dispo, quoi.
Ouais.
88.8 FM.